mais j'espère avoir donné suffisamment de pistes, d'avoir été suffisamment complet pour permettre à chacun de trouver ce dont il a besoin pour sa restauration, peu importe son besoin, sa situation. Et puis, de toute façon, on sait que par la grâce de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit se fait encore et toujours dans les cœurs, bien évidemment. Ce matin, j'ai vraiment à cœur de commencer avec vous cette nouvelle série de messages que j'ai intitulée « Une église selon le cœur de Dieu ». Cette série de messages s'inscrit dans la vision, dans les orientations spirituelles que je vous avais partagées, pour ceux qui se souviennent, sinon le PowerPoint et l'enregistrement sont à votre disposition, les orientations spirituelles, les fondements qui sont extrêmement importants, sur lesquels, s'ils ne sont pas là ou s'ils ne sont pas bien solides, on ne pourra pas construire. Ça s'inscrit dans cette vision, dans les orientations spirituelles présentées en janvier. Il est extrêmement important, bien aimés, les uns les autres, que nous ayons une bonne compréhension, une bonne vision de l'Église. Pas seulement les ministères qui servent dans l'Église, pas seulement les anciens, les futurs anciens qui serviront l'Église, mais aussi l'Église elle-même doit avoir une bonne vision et une bonne compréhension de qui elle est pour en avoir un bon vécu, pour être l'Église selon le cœur de Dieu. Parce que l'Église, ce n'est pas le lieu où nous allons. L'Église, ce n'est pas le lieu où nous nous retrouvons. L'Église, c'est qui nous sommes. Et je veux commencer avec ça ce matin. Je bénis le Seigneur de ce que je vois plusieurs personnes nouvelles. Soyez les bienvenus. Et puis, j'ai toujours à cœur, quand je commence une thématique, de toujours commencer par le béaba et qu'on soit bien au clair sur les mots que nous employons. Le but de cette série de messages, c'est réellement de construire en chacun de nous, de construire une bonne vision, ou pour d'autres, une vision plus profonde de l'Église, et que nous puissions avoir les uns et les autres, pas seulement une bonne vision et un bon vécu de l'Église, mais aussi d'avoir une plus grande passion pour l'Église. Parce que la passion de Jésus, c'est l'Église. Amen. L'Église, c'est la passion de Jésus. L'Église, c'est l'amour fou de Jésus. Jésus est le plus grand passionné et le plus grand amoureux qui soit. Jésus est fou de vous. Regardez la croix et dites-moi si j'exagère. Folie, dit Paul. Folie, dit Paul. Et nous avons besoin les uns les autres d'avoir cette vision qui est bien construite en nous et de voir notre amour personnel, notre passion pour l'Église grandir. Parce que si nous n'avons pas la passion de l'Église, nous ne serons pas sur la même longueur d'onde que Jésus. On ouvre ensemble Matthieu chapitre 16, on va prendre les versets 13 à 18 et on va commencer déjà par bien définir ce qu'est l'Église dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Jésus. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros, et que sur ce roc, Pétra, je bâtirai mon église. » Ce roc, cette Pétra, Jésus fait un jeu de mots dans l'original. « Petros, Petra, mais en réalité, il n'a pas dit à Pierre qu'il allait construire quoi que ce soit sur lui. Hein. Pierre n'a pas la papauté, on est d'accord. Hein. Il n'a pas la primauté ni la papauté. Jésus est simplement en train de faire un jeu de mots ici. Tu es Petros, et sur ce roc, sur cette Petra, c'est-à-dire sur cette parole que tu viens de prononcer, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, sur cette parole, je construis mon église. Il ne doit pas y avoir de quiproquo dans l'interprétation du texte. Sur cette parole, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Amen. Verset 18, on arrête là, ça suffit largement. On va commencer par bien définir l'église, parce que pour ça, comme pour le reste, ce n'est pas un péché, mais notre façon de parler ne nous aide pas forcément à toujours bien saisir la beauté de l'Église, sa valeur et sa réalité. Non, nous n'allons pas à l'Église. Nous sommes l'Église. Et peut-être la façon dont nous parlons, bien souvent, ne nous aide pas, et puis peut amoindrir un petit peu notre conception. Pourquoi c'est important ? Parce que dans ce monde... Dans ce monde, quand on dit le mot église, ben nécessairement, tout de suite, on va penser à un bâtiment. De préférence, un beau bâtiment, plus ou moins en ruine, mais quand même qui va être un édifice imposant, un édifice historique, parfois grandiose, parfois majestueux. L'architecture peut être impressionnante. On a des très belles églises, et après les églises viennent les cathédrales. Et vous savez, les disciples de Jésus, ils ont eu aussi, pendant un temps, ils ont eu aussi cette conception que cette église, que ce lieu où on rencontrait Dieu, devait être nécessairement quelque chose de matériel et de, pardonnez-moi, de clinquant, de tellement accrocheur d'un point de vue visuel. Et si vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 24, à un moment, les disciples sont là près du temple, le temple de Salomon qui avait été reconstruit après la déportation, et les disciples sont là et disent au Seigneur, « Maître, regarde !» Et ils commencent à faire remarquer à Jésus la beauté, le côté majestueux de cet édifice, de ce temple. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, de ce que vous voyez là, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ce n'est pas mon sujet ce matin, mais quand on regarde la façon dont l'envahisseur romain a attaqué le temple et qu'ensuite il est tombé, oui, effectivement, il n'y avait pas pierre sur pierre. Et ça s'est passé en l'an 70 de notre ère, environ 40 ans après la prophétie de Jésus. Il ne reste effectivement pas pierre sur pierre. Et à ce jour, le temple n'a toujours pas été reconstruit. Parce que ce n'est pas ce que Dieu cherche. Dieu n'a que faire des bâtiments. Le bâtiment, il est très pratique, on en a besoin. Parce que les pierres vivantes que nous sommes ont besoin d'un bâtiment pour se rassembler. On a besoin d'un lieu de culte, évidemment, qu'il soit propre, éclairé, lumineux, aux normes, et c'est agréable, évidemment. Mais le bâtiment n'est pas ce que Dieu cherche. La Bible est claire. Acte 7, 48, c'est Étienne qui parle. Il rappelle au peuple juif qu'il a devant lui, il leur dit, le Très-Haut, oui, David avait à cœur de construire un temple pour l'Éternel. Dieu a agréé cette demande, et puis il a dit à David, non, ce n'est pas toi qui construiras, moi je te donne les plans, tu les transmets à ton fils Salomon, et c'est lui qui va le construire. Mais tout de suite, il insiste en disant, de toute façon, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Parce que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Quelle maison, dit Dieu ? Et ici, Étienne reprend la prophétie d'Ésaïe, la parole d'Ésaïe, le prophète. Quelle maison pourriez-vous me bâtir ? Quel lieu me donneriez-vous pour demeure ? Toutes ces choses, ma main les a faites. Salomon lui-même, ayant construit ce temple extraordinaire, et au moment où il en fait la dédicace, 1 Roi chapitre 8, au moment où il va le consacrer, le dédicacer à Dieu, eh bien, il fait cette prière extraordinaire. Seigneur, les cieux, même les cieux des cieux, ne peuvent pas te contenir. Alors à combien plus forte raison cette maison, ce temple que je t'ai construit ? Oui, Dieu avait demandé à Salomon de lui bâtir un temple, Mais ce temple qui était construit dans la première alliance annonçait, c'était l'ombre des choses à venir, il était provisoire et il annonçait une réalité spirituelle bien plus glorieuse, savoir que nous serions, nous les disciples de Jésus, nous serions le temple du Saint-Esprit. Le temple était provisoire et il annonçait une réalité plus glorieuse. Et bien que Salomon était conscient que ce temple était extraordinaire, il savait pertinemment qu'il n'était pas assez bien et que de toute façon, il n'y aurait jamais rien d'assez grand et il n'y aura rien d'assez beau pour le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et ce qui me fascine, ce qui évoque mon admiration et mon adoration, c'est que ce Dieu-là ait accepté de faire sa demeure dans mon cœur. L'Église ne sera jamais un beau bâtiment, certainement pas. L'Église est un édifice, pardon, c'est en bas, l'Église est un édifice spirituel. L'Épître aux Hébreux dit, ne cherchez pas, Hébreux 3:6, je vous l'ai mis là. Sa maison, c'est nous, nous sommes, nous, les disciples de Jésus, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes sa maison, nous sommes un édifice spirituel, on va développer un petit peu tout ça dans quelques instants. Lorsque Jésus, le mot ecclésia, le mot église, existait de toute façon, il existait avant Jésus. Mais Jésus va donner au mot ecclésia une signification particulière. Ec, en dehors, clésis, appelé. Le mot ecclésia existait parce que ça signifie appelé hors d'eux. C'était en réalité le rassemblement qui était appelé hors de leur maison, hors de leur maison, pour constituer une assemblée. Ils étaient appelés aussi, on appelait ça l'assemblée publique du peuple. Les gens de la cité étaient appelés hors de la maison pour constituer une assemblée et s'occuper des affaires de la cité. C'était le sens courant du mot ecclésia. Et Jésus va donner à ecclésia un sens particulier, un sens spirituel, puisque nous, chrétiens, nous sommes appelés hors de. En dehors de quoi ? En dehors du royaume de ce monde, de ce royaume de ténèbres et de péché, nous sommes appelés hors de des principes de ce monde pour constituer une assemblée qui va être le corps visible de Jésus ici-bas, une unité, un corps, une assemblée qui va s'occuper des affaires de la cité céleste. Déjà dans l'Ancien Testament, dans cette ombre des choses à venir, le principe était déjà présent dans l'Exode. Dieu appelle un peuple hors d'eux. Il appelle un peuple hors de l'Égypte. Et ce peuple qu'il appelle hors de l'Égypte, il veut en faire son peuple afin que ce peuple soit l'expression visible de son cœur, l'expression de ce royaume, que ce soit l'expression visible d'un royaume invisible, l'expression de son cœur. Le peuple, dans la première alliance, était là pour censé représenter sur cette terre ici-bas le Dieu invisible, pour représenter son amour, pour représenter sa grâce, pour être l'expression de sa toute-puissance, pour véhiculer ses principes de vie, etc. Ce principe appelé hors de pour être le peuple de Dieu était déjà évidemment dès la sortie d'Exode, d'Égypte, pardon, était déjà dans le cœur de Dieu. Et puis, dans le Nouveau Testament, Jésus appelle des pécheurs. L'Égypte, c'est un symbole, on le sait, de notre ancienne vie dans le royaume de ce monde, dans le monde du péché, dans les ténèbres. Nous avons été appelés hors de. Dieu appelle des pécheurs hors de du royaume de ce monde. Le monde, c'est un système, c'est un ensemble de principes, c'est un système de pensée et de raisonnement qui sont antagonistes, qui sont opposés, qui sont contraires aux principes du royaume de Dieu. Le monde, c'est une mentalité, c'est un ensemble de principes. Le monde, ce n'est pas une tenue vestimentaire, même si on doit être sobre sur nos tenues vestimentaires. Le monde, ce n'est pas une tenue vestimentaire. Le monde, ce n'est pas un instrument. Le monde, ce n'est pas une chose. Le monde, dans la pensée biblique, c'est un ensemble de principes qui sont contraires à la pensée de Dieu, aux principes de son royaume. Dieu appelle des pécheurs hors du royaume de ce monde pour constituer son peuple, pour le représenter ici-bas, pour être l'expression visible d'un royaume invisible, pour vivre selon des principes différents de ceux de mon ancienne vie, pour pouvoir être l'expression de son amour, de sa grâce et de sa toute-puissance. C'est le sens de ce « hors de ». Et appelé « hors du royaume de ce monde », ben, si on définit bien ce que signifie « temple », maison, la maison de Dieu, si on définit bien ce qu'est la maison, il faut aussi bien définir qui est ce nous. Sa maison, c'est nous. Qui est ce nous? Ah, il faut être très clair. Ce nous, ce sont ceux qui sont sauvés, rachetés par le sacrifice unique, suffisant de Jésus à la croix. Ceux qui ont été sauvés par la repentance et la foi, qui ont fait de Jésus le seul et unique sauveur et seigneur de leur vie. Ces sauvés, ceux qui sont ces rachetés, sont devenus ses disciples. Là aussi, il faut être très clair. Moins dans nos sociétés occidentales, mais par exemple aux États-Unis, aussi dans l'état d'esprit africain, très souvent, on est tous chrétiens. On n'est pas chrétiens, nous ne sommes pas la maison de Dieu par héritage familial. Nous ne le sommes pas par naissance. L'apôtre Jean est clair, ce n'est absolument pas par hérédité humaine, mais c'est à tous ceux, dit Jean, qui ont cru en son nom, qui ont reçu cette lumière, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce sont ceux qui sont, par Jésus-Christ, devenus ses disciples. C'est à Antioche, pour la première fois, que les disciples, c'est-à-dire ceux qui suivent l'enseignement d'un maître et qui appliquent cet enseignement à leur vie, c'est ça un disciple. C'est à Antioche pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens, des petits Christ, parce qu'ils ressemblaient tellement, ces disciples de Jésus ressemblaient tellement à Jésus, ils ressemblaient tellement au Christ, on les a appelés des chrétiens, qui plus tard a donné le mot chrétien. Mais malheureusement, aujourd'hui, le mot chrétien n'a plus le sens aussi profond qu'il avait à l'origine dans les Actes des apôtres. Mais logiquement, un chrétien, c'est un Christien, c'est nécessairement un disciple de Jésus qui a fait de lui son sauveur et le Seigneur unique de sa vie, qui est son disciple, qui soumet sa vie à sa parole, parce que le Seigneur est clair, si vous ne gardez pas mes commandements, si vous n'aimez pas ma parole, ne venez pas dire que vous m'aimez moi, ce n'est pas possible. Et c'est extrêmement important de le comprendre. Ceux qui ont reçu, vous, moi, je le souhaite, le même esprit, nous professons la même foi, dans la même parole, nous avons reçu le même baptême par immersion conformément aux écrits bibliques. Nous sommes désormais, on pourrait dire, les rachetés, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, ceux qui sont devenus citoyens des cieux. Il y a des tas d'appellations dans la Bible, je vous en ai mis quelques-unes ici. Ceux qui sont devenus une habitation de Dieu en esprit, ceux qui sont devenus, selon ce que dit 1 Pierre 2:5, qui sont devenus les pierres vivantes qui s'assemblent pour former un édifice spirituel. Voilà à quoi Jésus pense, voilà la définition du Nouveau Testament de ce qu'est une église, de qui est ce nous. Sa maison, c'est nous, et nous, c'est qui? Ce sont les gens qui peuvent ici s'identifier à tout ce que le Nouveau Testament enseigne sous l'inspiration du Saint-Esprit. Devenu son temple, une habitation de Dieu en esprit. L'Église n'est donc pas un bâtiment, mais un temple spirituel qui est constitué de personnes qui sont les pierres vivantes qui, lorsqu'elles s'assemblent, représente de façon visible, le Seigneur représente de façon visible son corps, lui qui en est la tête, les pierres vivantes s'édifient, comme dit Pierre, pour former une maison spirituelle. Mais en d'autres termes, une fois que l'on a bien compris ces choses, c'est vrai que tout l'enseignement du Nouveau Testament sur ce sujet peut se résumer en une seule phrase de l'Épître aux Hébreux. Sa maison, c'est nous. Nous sommes nous, les gens qui sont là. Nous sommes l'Église. Amen. C'est aussi important, on va aller un peu plus loin, de comprendre à la lumière du Nouveau Testament, puisqu'on commence à parler d'édifice spirituel, on va être bien clair sur la différence entre l'Église universelle et l'Église locale, qui sont effectivement deux réalités indissociables, mais il faut bien les distinguer et bien les comprendre. Église universelle. L'Église universelle, c'est l'ensemble de ceux, de ce « nous » dont nous avons parlé, c'est l'ensemble de ceux qui sont rachetés par Jésus, de ses disciples. C'est l'ensemble des rachetés sans aucune notion géographique, peu importe le lieu, et sans aucune notion temporelle. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de tous les rachetés, de toute la terre et de tous les siècles. Ça, c'est l'Église universelle. Et par exemple, il y a des textes qui parlent évidemment de l'Église universelle. Je vous en ai mis un, par exemple, ici, 1 Thessaloniciens 4, quand l'apôtre Paul annonce qu'il prophétise et qu'il parle de l'enlèvement prochain de l'Église, là, il parle bien de l'ensemble de tous les rachetés, de tous les âges, de tous les temps, sous tous les cieux. Il est ici question d'Église universelle. L'Église universelle, par conséquent, elle est extrêmement étendue. Elle est extrêmement vaste. Tellement étendue et tellement vaste que je fais comment pour la voir ? Elle est éparpillée à la surface de la terre et elle est éparpillée à la surface des siècles. Donc il faut bien que cette Église, qui est certes l'Église de Jésus, qui est belle, qui a une beauté, une valeur extraordinaire, mais cette Église qui est extrêmement vaste dans l'espace et dans le temps, je dirais même cette Église qui finit par avoir des dimensions vertigineuses, parce qu'avec les siècles, merci Seigneur, et aujourd'hui encore, on parle de centaines et de centaines et de centaines de millions de chrétiens, de chrétiens, de disciples nés de nouveau, tels que nous l'avons conçu ici, tels que nous l'avons défini ici. Donc cette Église est là, merci Seigneur, elle est grandiose, elle est gigantesque, elle a des dimensions vertigineuses. D'où la nécessité d'Église locale. Parce que cette Église qui a, universelle qui a des dimensions si vertigineuses, ben il va falloir lui donner une dimension humaine afin que ce corps, que cette maison, elle soit plus facilement identifiable et qu'elle soit plus facilement accessible. D'où la nécessité logique de l'Église locale. L'Église locale, c'est toujours le rassemblement des disciples, mais cette fois, c'est dans une temporalité et c'est surtout dans un secteur géographique précis. Quand on lit le Nouveau Testament en faisant bien attention à la question d'Église locale, on s'aperçoit qu'il y a, j'en ai mis quelques-unes, mais en réalité, il y a des dizaines de références. Il y a entre 80, je ne me suis pas amusé à compter, c'est à peu près, il y a entre 80 et 90 références à l'Église locale. En acte 13, il est question de l'Église d'Antioche, c'est très précis. En 1 Corinthiens 1-2, Paul écrit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. En acte 14-23, Paul et Barnabas étaient à Derbe, ils vont à Lystre, ils vont à Icône, ils vont à Antioche, et ce sont, dans chaque église, on voit les apôtres, les envoyés, on les voit fortifier l'esprit des disciples, on les voit exhorter les églises à persévérer dans la foi, et on les voit, et c'est très clair, établir des anciens dans chaque église. Et il y a ainsi des dizaines de références à l'Église locale. En acte 16, 5, j'ai mis des petits points parce qu'après, il y a une, je ne vais pas tout vous citer, ce serait exhaustif. Il est dit en acte 16, 5 que les églises, pas l'église avec un E majuscule, pas l'église universelle, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre. Et aussi dans les salutations, quand vous faites bien attention, toutes les églises de Christ vous saluent, les églises d'Asie vous saluent, ceux d'Italie vous saluent, etc. etc. Oui, tous les disciples de Jésus, automatiquement, sont membres de l'Église universelle. C'est automatique. Mais c'est seulement dans le cadre de l'Église local, avec ses imperfections, mais quand même, parce que c'est la volonté de Dieu, c'est seulement dans le cadre de l'Église locale que nous pouvons expérimenter la réalité du psaume 133, par exemple, et de tant d'autres, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Et ça, au niveau de l'Église universelle, c'est pas possible. Par contre, dans l'Église locale, oui, il est possible que des frères expérimentent, des frères, des sœurs, ces frères au sens l'être humain, bien sûr, hein, racheté. Mais il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être béni à la maison. Mais il y aura toujours, c'est la volonté de Dieu, une dimension de bénédiction particulière au sein de l'Église locale. Il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, pourvu que nous vivions l'Église comme il veut que nous la vivions. Et que nous soyons l'Église comme il veut que nous le soyons. C'est cette vie et cette bénédiction au sein de l'Église locale. Je vais insister, puisqu'on parle de ça. Ce sera mon dernier point pour ce matin. On va parler de la nécessité. La nécessité de l'Église. Plus tard, on verra tellement de choses sur le miracle de l'Église, on verra l'impact de l'Église sur la terre, l'impact de l'Église dans les sphères célestes, on verra nos relations. Il y a beaucoup de choses à voir sur la thématique de l'Église, mais puisqu'on parle d'Église locale, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment. Que nous ayons les uns les autres, je veux parler autant à ceux qui écoutent ce message sur Internet que ceux qui sont ici, sur la nécessité d'appartenir à une église locale. L'église locale n'est pas une option. L'église locale, c'est clairement la volonté de Dieu. De part, comme je vous l'ai dit, les dizaines de textes du Nouveau Testament, l'église locale est omniprésente dans le Nouveau Testament, c'est donc une réalité incontournable, mais aussi à cause du sens profond du mot ecclésia. Ecclésia, ek, hors de, clésis, appelé. Mais appelé aussi au sens de convoquer. Lorsque le peuple, dans la cité, était ecclésia, appelé, hors de, c'était pas seulement un appel. Il y avait aussi la notion de convocation. Le peuple était convoqué hors de sa maison, il était convoqué, et vous savez, je pense que c'est qu'une convocation, c'est extrêmement sérieux, une convocation est bien plus qu'une invitation, c'était une convocation, le peuple était convoqué par les autorités de la ville pour se rassembler, parce qu'il était temps de s'occuper des affaires de la cité, et que c'était bien sûr une nécessité de le faire, mais c'était dans l'intérêt des habitants et dans l'intérêt de la cité. L'Église, si on prend bien le sens profond d'Ecclésia, l'Église, c'est Dieu, l'autorité suprême qui nous convoque. Oui, il nous appelle. Oui, il nous invite. Mais il y a aussi, on dit parfois, et c'est juste de dire, nous avons une sainte convocation. Oui, Dieu insiste et me dit, je veux que tu sortes de chez toi et que tu viennes, et pas seulement pour ceux qui ont du mal à sortir de chez eux et à se joindre à une église locale, mais aussi pour ceux qui, parfois, pardonnez-moi, viennent à l'église sans réellement comprendre qu'ils sont l'Église et sans réellement comprendre que c'est pas, je ne viens pas comme ça. Dieu m'invite, Dieu m'adresse une sainte convocation. C'est Dieu, l'autorité suprême, qui me convoque. Alors, il ne me convoque pas au sens où me convoque le tribunal administratif ou correctionnel avec, comme un juge. Il ne me convoque pas comme un juge. Mais c'est réellement une convocation où Dieu m'appelle, il nous appelle à venir nous assembler devant lui avec le plus grand sérieux. Nous nous assemblons devant lui, nous nous assemblons pour lui. Et c'est lui qui a pris l'initiative de rassembler, de réunir ses rachetés, ses enfants, ses disciples, les citoyens des cieux que nous sommes. Paul dit aux Philippiens, nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Et Dieu convoque les citoyens des cieux que nous sommes hors de leur maison pour venir, non pas à l'Église, mais pour se rassembler et être l'Église locale, être l'expression visible du Dieu invisible, l'expression de son cœur, de son amour, de sa puissance, de sa grâce, et de ses œuvres et de ses principes de vie. L'Église, pardonnez-moi, ce n'est pas la carte Auchan, ce n'est pas la carte Carrefour. L'Église, ce n'est pas quand j'ai rien d'autre à faire. L'Église, c'est ma passion. Je suis là, ce n'est pas parce que j'avais rien d'autre à faire. Je suis là, ce n'est pas parce que vous me payez. Je suis là parce que je ne veux pas être ailleurs. Amen. L'Église, c'est ma passion. C'est la passion de Jésus. Je ne veux pas être ailleurs. J'ai réalisé quelle est la personne qui m'a convoqué. J'ai réalisé qui je suis et j'ai réalisé, on le verra au fur et à mesure, ce que je viens faire ici. Donc quand je viens ici, quand je me rassemble, déjà pour ceux qui ont du mal à sortir de chez eux, et même une fois qu'on est sorti de chez nous, si j'ai compris ces choses, quand je viens me rassembler avec mes frères et sœurs, je ne peux pas être venu sans m'être préparé. Je ne peux pas être venu, je ne peux pas venir à la légère. Je ne peux pas venir par habitude, je ne peux pas venir. Il y a quelque chose qui doit être forcément plus grand, plus fort et qui doit être bénissant ici. Et ça, c'est quelque chose qui doit réellement imprégner notre mentalité profonde, notre état d'esprit. Je suis l'Église. Je ne viens pas à l'Église. Je suis l'Église. Le Dieu du ciel me convoque et il veut que je vienne avec les autres rachetés m'occuper des affaires de la cité céleste, m'occuper des affaires spirituelles de mon Père ici, dans ce simple bâtiment, mais être l'Église avec mes frères et sœurs. Amen. Et il y a une dimension beaucoup plus grande, et c'est là qu'on peut commencer à rentrer dans un vécu d'Église et dans des bénédictions dans nos rassemblements nettement supérieurs. Par conséquent, Ecclésia n'est pas une option. Ecclésia, c'est une responsabilité, c'est un privilège. Amen. Mais c'est aussi une responsabilité. Je comprends, j'ai de la compassion, j'entends bien partout les disciples qui à un moment, un jour, ont dit « Moi, l'Église, ça suffit, c'est terminé. » Partout, on trouve toujours des chrétiens qui ne veulent plus entendre parler d'Église locale. Et tout le monde peut avoir ses raisons. On le conçoit, on a de la compassion. L'Église de Jésus est imparfaite, elle est en chemin, elle est en croissance, elle est en construction, elle est en progression. Parfois, l'Église de Jésus est profondément malade. Mais quand l'Église de Jésus est malade, pardon, je ne fais pas mes valises et je ne me tire pas. Quand l'Église de Jésus est malade, je suis à son chevet, parce que mon maître est au chevet de son épouse. Et bien que je ne dis pas que les blessures ne sont pas graves. Si c'était, je n'aurais pas fait 6 mois de restauration, d'accord ? Bien sûr, les blessures sont graves. Je dis que lorsqu'on a été blessé dans les églises, il existe une façon spirituelle de gérer. Il existe de gérer les blessures, il existe des chemins de guérison, on l'a vu, il existe des sentiers de justice, des voies de restauration. Je dis simplement que la fuite, l'isolement, l'indépendantisme, la division ne sont jamais une solution et ne sont jamais dans la pensée de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'Église locale. La volonté de Dieu, c'est l'Église. La solitude, l'indépendantisme, être un franc-tireur dans un coin isolé, faire son truc dans son coin, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans sa parole, Dieu ne traite pas, lisez bien, faites attention, Dieu ne traite pas avec des individus, Dieu traite avec des communautés. Il faut faire très attention à ce point, c'est extrêmement important. Et quand on se coupe et on n'est pas sur la même longueur d'onde que Jésus, ce n'est pas possible. L'Église locale, oui, il y a des bénédictions. L'Église locale, est-ce qu'il y a des inconvénients? Ben oui, on ne va pas se mentir, parce que c'est formateur. Il y a une pédagogie de Dieu dans l'Église locale. Vous savez, des fois, on continue de venir à l'Église, mais à l'intérieur, on n'est pas resté chez soi, on est là, mais à l'intérieur, on est en retrait. Et ce n'est pas un reproche. Il y a une pédagogie de Dieu dans l'Église locale. J'ai tellement à apprendre. J'ai tellement à apprendre sur moi-même. J'ai tellement de progrès à faire. Et quand je suis confronté aux limites, aux faiblesses, aux difficultés des uns et des autres, c'est en réalité à mes propres limites que je suis confronté. Vous me révélez mes besoins de croissance et inversement. L'Église, c'est un moyen, oui, certes, il y a des bénédictions, c'est un moyen aussi de connaître Dieu, bien sûr, d'une certaine façon, mais c'est aussi un moyen de se connaître soi-même. Parce qu'on est confronté à nos propres limites, on est confronté à notre besoin de croissance, parce que nous devons grandir à la ressemblance de Jésus. Et Dieu peut se servir de telle ou telle personne, Dieu se sert de telle ou telle situation, de telle ou telle imperfection, de telle ou telle injustice. Dieu va se servir de telle ou telle pour me conduire davantage dans ses chemins. Mais si je comprends ça, et si au lieu de voir ce qu'on m'a dit ou ce qu'on ne m'a pas dit, si je considère mes besoins de croissance et la façon dont je vais grandir, mais quelqu'un qui me dit un truc de travers, mais moi j'ai envie de le prendre dans mes bras. Et je lui dis merci, tu ne te rends pas compte à quel point tu vas me faire grandir. Merci, grâce à toi, je vais passer un cap, je vais monter une marche spirituelle. Cette semaine, je vais avoir une patience. Merci frère, tu es imbuvable. Si tu savais comme je t'aime, vraiment, c'est grâce à toi, je suis plus patient. Ce n'est pas avec des gens super cool qu'on devient patient. C'est avec des gens difficiles. C'est comme ça qu'on devient sage. C'est comme ça qu'on progresse dans l'amour, etc. etc. Frères et sœurs, il y a réellement, je pèse, j'insiste, il y a une pédagogie de Dieu dans l'Église locale, dans sa volonté. Nous sommes, j'ai un grand privilège, mais j'ai une grande responsabilité. Mon frère, ma sœur, je te rappelle avec amour et bienveillance, tu es chrétien, tu es disciple de Jésus, tu es chrétien. L'Église, on le verra, est un pur miracle, on en reparlera sous d'autres aspects. L'Église n'est pas un club, l'Église n'est pas une association, même si nous devons être constitués en association cultuelle, loi 1905, pour être soumis à nos autorités. Pas de problème, il faut le faire. Mais l'Église, même si elle est constituée en association aux yeux des autorités de ce monde, l'Église n'est pas une association dans la pensée de Dieu. L'Église n'est pas un club de gens qui ont des points communs. Non, non, l'Église, excusez-moi, l'Église, ce ne sont pas des amis qui se retrouvent. L'Église, ce n'est pas de l'affectif. L'Église, ce n'est pas des gens qui s'entendent ou qui ont des affinités. Ce n'est pas ça, l'Église. L'Église, vous êtes plus que mes amis. Vous êtes plus que des gens avec qui j'ai de plus en plus d'affinités. Vous êtes mes frères et mes sœurs dans la foi. Et ça, ça n'existe pas dans le monde. Dans le monde, on a des amis, mais l'amitié, c'est versatile. Dans le monde, on a des affinités. Mettez tous les fans de bodybuilding dans une salle de sport, c'est les meilleurs potes du monde. Nous n'avons pas d'affinité. Nous sommes liés par l'amour de Jésus. Nous n'avons pas de sentiments les uns pour les autres. Je ne cherche pas dans l'Église, je ne cherche pas des amis dans l'Église. Je ne cherche pas de l'affection dans l'Église. Je ne cherche pas je ne sais pas quoi dans l'Église. Vous êtes plus que ça. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Vous êtes les frères et les sœurs de Jésus. Vous êtes les enfants du roi des rois. Vous êtes les enfants du Père. Et vous êtes bien plus. Et chaque fois que, dans l'Église, on veut des relations d'affect, quand on veut des relations d'amitié, quand on veut être sûr, parce qu'on a on est sur la même longueur d'onde, parce qu'on a des points communs, et puis on s'apprécie, parce que, pardon, c'est tout ça. On rabaisse la beauté et la valeur de l'Église. Vous avez été, nous avons été lavés, sauvés, rachetés, purifiés par le même sang, par le même sauveur. Nous avons la même foi, dit Paul, on le verra tout ça, tous nos points communs, la même foi, le même baptême, le même esprit, la même espérance. Nous avons les yeux fixés, je vais prêcher jusqu'à 15 heures, nous avons les yeux fixés sur le même ciel d'où nous attendons le même sauveur. Et puis des fois on dit, moi j'ai pas trop d'affinité avec elle. Pardon, on s'en moque, on n'est pas à l'Église pour avoir des affinités. Je suis avec des gens qui ont été lavés par le sang de Jésus. Les affinités, c'est peanuts à côté. Et vous voyez que la façon dont on va voir l'Église va ouvrir, va nous permettre d'avoir un vécu différent et d'avoir beaucoup plus de liens fraternels et spirituels, parce que ces liens-là sont plus forts que l'affection. Ces liens-là sont plus forts que le bon sentiment. Ces liens-là sont plus forts que l'amitié, parce que ce sont des liens qui ne sont pas humains. L'amitié, c'est humain. Mais ce sont des liens par le Saint-Esprit de Dieu. Et ça, c'est plus fort que tout. Puis quand on a vécu ça, et qu'on n'est plus dans les pensées d'affectif, d'être sur la même longueur d'onde, tu me plais, je suis plus comme toi, on partage la même opinion sur ci ou sur ça, quand on n'est plus là-dedans, ben vous savez, et qu'on est dans ce mon frère, ma sœur, Jésus a livré sa vie exactement pour toi comme pour moi. Ah ben quand je suis dans cette dimension-là, ah, il n'y a pas de mauvais mots qui sortent de ma bouche. Hein. J'ai pas envie de vous faire du mal, je veux pas vous blesser. Vous êtes trop beau. Vous êtes trop précieux, spirituellement vous êtes trop beau. Vous avez trop de valeur. Et il est hors de question de... Alors parfois on aura des maladresses, certes. Mais dans l'intention, on est parfaitement clair. L'Église locale, c'est la pédagogie de Dieu, l'école de formation de notre maître. Nous sommes ses disciples, il a un maître. L'école de Dieu, elle peut prendre plusieurs formes. Mais entre autres, l'école de Dieu, c'est l'Église. Amen. Et qu'est-ce que je fais à l'Église? J'apprends. J'insiste un petit peu sur ce point, je termine avec ça. J'en fais pas d'autres pour ce matin, c'est trop important. J'ai trop entendu, bien-aimé, c'est pas méchant ce que je vais dire. J'ai trop entendu partout des chrétiens qui ne veulent plus d'église dire « Ah mais vous inquiétez pas, je vais bien ». C'est faux. Les gens qui fuient l'Église ou qui vont à l'Église à reculons ne vont pas bien. Parce que quand je vais bien, croyez-moi, ce dont j'ai envie, ce que je cherche mes frères. Quand on est en bonne santé spirituelle, on cherche la communion des gens qui ont vécu, qui vivent les mêmes choses, pas dans l'affinité, mais qui vivent les mêmes choses spirituelles et qui ont compris les mêmes choses que moi de par l'enseignement, de par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Combien de fois on m'a dit aussi, pardon, c'est pas méchant. Ah mais vous inquiétez pas, je prie à la maison. J'espère. Puis ensuite, tu pries quoi à la maison? Si tu veux un bon sujet de prière, mon frère, ma sœur, demande au Seigneur, dit Seigneur, quelle église locale, quel corps veux-tu pour moi, là où je dois être membre? Parce que si tu n'es pas dans une église locale, il y a forcément un trou quelque part. Tu as besoin d'un corps et il y a un corps qui a besoin de toi. Et puis quand on dit j'ai une bonne relation avec Dieu à la maison, c'est très discutable parce que puisque tu as une bonne relation avec Dieu, avec sa parole, explique-moi, comment as-tu fait pour ne pas voir la réalité de l'église locale dans le Nouveau Testament ? Puisque tu as une bonne relation avec Dieu, comment tu n'entends pas le Saint-Esprit te parler et te dire « je ne veux pas que tu restes seul ». Même une super pointure comme l'apôtre Paul, faites gaffe, il n'était jamais tout seul. Jamais, même Paul ne s'est jamais permis de faire son petit truc dans son coin. Il visitait les églises, il était soumis à des églises, envoyé par une église dans une autre église, toujours avec des collaborateurs, jamais en franc-tireur, jamais, toujours en équipe, toujours dans les églises. Comment t'as pas entendu le Saint-Esprit te parler ? Comment le Saint-Esprit n'a-t-il pas « Ah mais moi j'aime Dieu, par contre lui, elle, machin, et bidule, non. » Puisque j'ai une bonne relation avec Dieu, comment se fait-il que le Saint-Esprit n'ait pas rempli mon cœur d'amour pour les gens qui ne sont pas aimables? Ben oui, parce que l'amour de Dieu, il est fait pour les gens qui ne sont pas aimables. Pour les gens qui sont aimables, vous utilisez l'amour humain, ça va tout seul. La foi est faite pour l'impossible. Et ben, l'amour de Dieu est fait pour les gens qui ne sont pas aimables. Ça va comme ça. Oui, mais j'aime Dieu quand même. Oh, pardon, ce n'est pas Brion qui le dit. Relisez la première épître de Jean. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, puisque Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas son frère ne pratique pas la justice de Dieu, c'est-à-dire il est mal positionné, il n'est pas approuvé de Dieu. Celui qui n'aime pas son frère ne pratique pas la justice de Dieu. Celui qui n'aime pas son frère, comment peut-il dire qu'il aime Dieu? Tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Comment tu peux dire ça? Première épître de Jean. Quand on fuit, quand on refuse l'église, ou mes bien-aimés, pardon, mais quand on y va à reculons, ce n'est pas la pensée de Dieu. Si nous n'aimons pas l'église d'un amour passionnel, l'amour de Jésus pour son église est un amour sacrificiel, passionnel. Si nous n'aimons pas l'église comme lui, il l'aime, je ne peux pas être sur la même longueur d'onde que lui. Il va y avoir nécessairement une difficulté relationnelle. Imaginez que je vais voir un frère, je lui dis « Frère, entre toi et moi, on a une bonne relation, je t'apprécie beaucoup. Pour différentes raisons, surtout parce que tu es mon frère, on a une relation spirituelle. Toi et moi, je sens, on est sur la même longueur d'onde. Par contre, tes gosses, faut pas m'en parler. Moi, je ne veux pas de tes gamins, je ne veux pas de tes enfants, c'est mort. Toi et moi, on peut se voir, par contre, on se voit quand tes gamins, ils ne sont pas là. Frères et sœurs, est-ce que je peux regarder Dieu mon Père qui me dit « j'ai livré Jésus autant pour lui que pour toi » Est-ce que je peux regarder mon Père et dire « tu sais, papa, toi et moi, on a une super relation. Hein. Par contre, tes gosses, tu te les gardes. » Imaginez que vous me disiez, oh ben tiens Stéphane, on t'invite, on aimerait bien passer un moment avec toi, un partage, un goûter, une balade, un entretien au bureau, ce que vous voulez, je suis à votre disposition. Tu sais Stéphane, on aimerait bien passer un moment. Par contre, t'es gentil, toi, ok, par contre, t'emmènes pas ta femme. Hein. Parce que toi, je t'aime bien, toi, je t'aime, par contre, ta femme, c'est mort. Moi, je veux pas d'épouse, je veux pas d'église locale, pas d'épouse. Toi et moi, Jésus, ok, mais ta femme, c'est non. Ben, mes frères et sœurs, c'est pas que je vous aime pas. Vous comprenez? C'est pas que je vous aime plus. Mais si vous voulez pas de ma femme, puisque elle et moi, nous sommes un, on va gérer ça comment? Et vous comprenez que sur le plan relationnel, ça va mettre une distance entre nous, parce que ça va devenir très vite compliqué. Je peux pas regarder Jésus et lui dire... Seigneur Jésus, toi et moi, je voudrais qu'on passe des bons moments ensemble. Par contre, ta femme, j'en veux pas. Et le Seigneur, il te montre, il dit, oui, mais tu n'as pas idée de ce que j'ai fait pour ma femme. Et tu n'as pas idée de tout ce que j'ai sacrifié pour elle. Tu n'as pas compris que mon épouse et moi, l'Église et Jésus, nous sommes un, nous sommes inséparables. Si tu ne veux pas mon épouse, c'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je t'aime plus. Mais la relation va être distendue, très compliquée. Elle va s'étioler. Frères et sœurs, l'Église, c'est la folie de Jésus. L'Église, c'est sa passion. On verra plein d'autres points ensemble dans les messages suivants, mais que peut-être nous puissions déjà bien nous imprégner de ce que réellement, de ce qu'est l'Église, que nous sommes l'Église, et que ça amène dans nos cœurs déjà une autre ouverture, une autre vision, une autre compréhension, une autre aspiration pour vivre ensuite d'autres dimensions de bénédiction ensemble. Amen. On continuera la semaine prochaine. Soyez bénis, on se recueille. Merci pour votre attention.